Monsieur Mirmy, je me permets. Je me permets de vous appeler pour me souhaiter un bon anniversaire et à travers moi, à la France entière. Depuis 2 ans, mon programme est ambitieux parce qu'il veut être profitable à tous les Français. Oui, je veux que tous les Français en profitent. Et en tant que président de la République, je me dois d'être le représentant de tous ces Français. Alors, je profite, hein. Oh là là, oui, je profite bien, hein. Grand restaurant, vacances de luxe, yacht de milliardaire, le bling bling, tout ça. Mais que voulez-vous? Certains ont des amis chers, moi j'ai des amis riches, c'est une question de valeur. Et s'il y en a que ça les démange, eh ben c'est comme le pouvoir d'achat, c'est le caddie de mes soucis.
Oui, dit Daniel, j'ai retrouvé un article paru le 7 mai 2007 dans les pages financières du Figaro. C'est un communiqué un peu long, mais très intéressant. Alors je lis. Le 6 mai 2007, s'est réuni au restaurant Le Fouquet's, le conseil de surveillance du groupe France. Les principaux actionnaires du groupe étaient présents. Ils étaient réunis pour mettre en place le président du directoire, Nicolas Sarkozy, qu'ils avaient choisi à l'unanimité pour un mandat révocable de 5 ans. Les activités du groupe France sont très diversifiées et chaque administrateur est responsable d'une branche. Alors Nicolas Bazir pour la banque et les affaires financières, Bernard Arnault pour le luxe et la grande distribution, Martin Bouygues pour le bâtiment et les médias, Serge Dassault pour l'armement et l'aviation, Vincent Bolloré pour la publicité, les transports et la zone Afrique, Albert Frère pour l'énergie, François Sarkozy pour les médicaments hospitaliers, Guillaume Sarkozy pour les assurances. Alors, dans son allocution, le président du directoire, Nicolas Sarkozy, a annoncé qu'il réformerait la gouvernance du groupe France dans le sens voulu par le conseil de surveillance, notamment en renforçant les pouvoirs du président du directoire face aux représentants des petits actionnaires. Il compte prendre les mesures suivantes, fusion de Gaz de France et de Suez pour la branche énergie, le livret A mis à la disposition des banques, ouverture de supermarchés sans l'accord des mairies pour la branche grande distribution, suppression de la publicité dans l'audiovisuel public pour la branche média, privatisation du secteur public de santé pour les branches pharmacie et assurance. Le conseil de surveillance a déclaré faire confiance au président du directoire pour valoriser le groupe en faisant des économies sur le fonctionnement et en permettant une meilleure rémunération des actionnaires. Voilà, c'était le 6 mai 2007 au Fouquet's.
Bonjour, si vous avez regardé hier soir les informations à la télé, vous avez enfin appris, comme moi, quelque chose d'intéressant en politique. C'est la différence qui existe entre une réunion républicaine et un meeting de l'UMP. La réunion républicaine est ouverte à tous, c'est-à-dire même aux opposants, alors que le meeting, lui, est consacré à vos partisans. Eh bien, à Nîmes, le président de la République nous a prouvé une nouvelle fois que les récents sondages qui ne lui accordent plus que 24% d'opinions favorables et donc 65% de mécontents et 11% qui s'en foutent, ne sont l'œuvre probablement que d'une nouvelle entreprise terroriste ou d'une manœuvre grossière de l'opposition. À Nîmes, hier soir, il y avait 100% de satisfaits et 0% de manifestants. Et cela, bien évidemment, spontanément et en toute objectivité. Va falloir vous y faire, mesdames et messieurs, car la campagne présidentielle pour sa réélection en 2012 ne fait que commencer. Mais après tout, on n'est pas obligé d'habiter à Nîmes, hein? Allez, soyez forts et à bientôt. Patrick Biloé, dans l'Aube.
Bonjour à tous les AMG du là-bas si j'y suis, bonjour à Daniel Mermet et à toute son équipe. Donc je vous appelle pour dire que mercredi, demain, le repère se passera à la minima à 20h. On évoquera l'université, à Poitiers ce qu'il en est, le mouvement national en général, en compagnie d'un universitaire et de quelques étudiants. Nous évoquerons aussi l'association Jardin Nature et nous parlerons aussi de Julien Coupa. Voilà, bon, mais je vous dis au revoir et puis à demain. Au revoir.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. J'ai une bonne nouvelle. 2 ans sont passés depuis que le petit César a pris les commandes de cette pauvre France. J'en ai une mauvaise par contre. Il en reste 3.
Salut, c'est Ben en Ariège. Eh bien, écoutez, moi je soutiens de tout cœur la grève des matons. Je pense qu'il y a vraiment une surpopulation en prison. Alors je vais leur donner un petit conseil, maton, s'ils ont envie de l'écouter. Ils ont qu'à foutre tout le monde dehors. Il y aura un peu moins de surpopulation et un peu plus d'air pour ceux qui restent. Voilà, allez, portez-vous bien, la lutte continue et la liberté est ce qu'on a de plus sacré. Ciao, portez-vous bien.
qu'il est drôle le sketch de Mermet qui prend la défense des matons. Tout ça pour avoir l'occasion, une fois de plus, de taper sur Sarkozy. Quand je pense tout ce que tu as dit sur les matons, comment ils martyrisaient les prisonniers et qu'ils les faisaient chier, et là, tout d'un coup, Daniel Mermet prend son masque 2 euros et se déclare défenseur des matons.
Monsieur Mermet, je suis en train d'écouter votre émission sur les prisons. Je viens de vous entendre dire que les victimes ne sont pas plus consolées quand les responsables sont en train de pourrir en prison. Je peux vous dire que c'est faux. Mon fils a été tué par quelqu'un qui l'a fait volontairement, et le jour où il sera en train de pourrir en prison, je commencerai seulement à être consolée. Au revoir, monsieur Mermet.
Oui, Daniel, bonjour. Je m'appelle Antonella, j'habite dans le Pas-de-Calais, et je voulais te dire que tu avais perdu un fidèle auditeur, mon compagnon Philippe. Il nous a quittés hier matin, et sache qu'il était branché 24 heures sur 24 sur France Inter, et il adorait spécialement ton émission. Voilà, je tenais à te le signaler. J'espère que tu passeras mon message, rien que pour lui, tu vois, ça me ferait vachement plaisir. Et à lui aussi, d'ailleurs. Merci, Daniel. Au revoir.
Bonjour, Olivier de Caluire, à côté de Lyon. Bah, j'aurais bien voulu faire un message par l'un des petits oiseaux et des fleurs. Mais voilà, bah, je suis dans une boîte qui dépend de Continental, Quantitech à Noflex. Et bon, bah, on va encore virer 157 personnes sur 500. Et c'est un véritable rouleau compresseur, quoi. Au bout de 30 ans de boîte, on va se retrouver avec 10 000 euros dehors. Et surtout, pas de boulot, quoi. Alors qu'on a tout mis dedans, on a mis des dizaines d'années d'efforts, de travail. Et voilà, on est récompensé avec rien du tout, quoi. C'est les actionnaires, encore une fois, qui vont empocher, et nous, comme tout le monde, enfin comme plein de gens, on va être dehors. C'est pas très original, c'est pas très rigolo, mais ben, j'ai rien d'autre de bien marrant à dire. Voilà, allez, au revoir tout le monde.
Ouais, ben, c'est notre sujet aujourd'hui, figurez-vous. Oh, la crise. Ouais, là on vient d'apprendre que 200 à 300 ouvriers de Continental Clairois ont pénétré ce jour par la force dans l'usine du groupe allemand de pneumatiques de Sarreguemines en Moselle, après avoir fait sauter les verrous de la grille d'entrée, les Conti, comme on les appelle, ont pénétré sur le site au cri de « On est chez nous » et Continental Solidarité, avant de se rassembler devant les bâtiments de production où ils ont été rejoints par certains des 1100 salariés de l'usine Mosellane. Voilà, David Poujadas va pouvoir essayer à nouveau de calmer ces travailleurs en folie. Alors, c'est vrai qu'en France, on détruit 2 à 3000 emplois par jour, mais enfin, les actionnaires des 40 plus grands groupes français, le CAC 40, il faut le rappeler, ont reçu 54,2 milliards de dividendes en 2008. Donc, tout ne va pas si mal. Et puis, cette crise crée des emplois, ou bien développe des emplois. Prenez par exemple la noble activité de manager de transition. Vous savez ce que c'est, vous, manager de transition ? Eh bien, ça peut vous intéresser, hein, si vous devez vous recycler, vous redéployer, montrer votre employabilité. Peut-être êtes-vous fait pour devenir manager de transition. C'est ce qui nous a intéressé avec Pascal Pascariello. Qui sont ces managers de transition ? On va le découvrir. Un bien beau métier, quoi qu'il en soit. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. Et j'y suis. Oh, 01 56 40 37 37.
MJ du Pas-de-Calais, d'ailleurs, n'oubliez pas notre réunion au repère de Monchy-Breton ce jeudi 7 mai. Donc, rendez-vous à partir de 18h30 chez Tartous et compagnie. De quoi parlerons-nous ce soir-là ? Eh bien, venez et vous verrez.
Bonjour, Daniel Mermet, c'est Laurent du Sud-Gironde à l'Aréole. C'est pour vous informer de notre quatrième repère le jeudi 7 avril, 7 mai plutôt, à partir de 19h30 au Petit Montmartre. Notre sujet du soir sera la désobéissance civique. Voilà, et nous parlerons aussi de nos premières actions. Nous vous attendrons nombreux et bonne chance à tous.
Au revoir.
Combien de plans sociaux vous avez dû faire?
En tout. Beaucoup. Un plan social, c'est d'abord une démarche très volontaire de la part d'une entreprise. Enfin, on sait bien qu'elle met en jeu son image. Elle met en jeu aussi des sommes qui sont très importantes. Quoi qu'on puisse en dire, une société qui rentre là-dedans fait une démarche qui quand même est risquée et qui demande un certain courage.
Le métier de management de transition est le métier que je fais aujourd'hui. Et pour moi, c'est un jeu. Et je vis de façon extrêmement heureuse et sympathique cette fonction. Hein.
Est-ce qu'il était légitime?
Je pense que c'est un plan social légitime. Il était légal, en tout cas.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Pascal Pascariello, manager de transition, un bien joli métier.
On est au cœur de la défense. D'ailleurs, on a un peu l'impression d'être dans un quartier américain. Il y a des grandes tours de partout autour de nous. Les deux tours qui nous entourent sont celles de Total et Areva. Ce sont deux clients potentiels.
Nous, on travaille en confidentialité. Et donc, on a des accords de confidentialité. On ne peut pas citer le nom d'un client, sauf à lui avoir demandé préalablement. Les entreprises ne souhaitent pas forcément communiquer sur le fait qu'elles utilisent des managers de transition. Et nous, si vous voulez, par déontologie... Comme vous allez voir un médecin, si vous voulez, parce qu'on a un petit peu ce rôle-là, vous ne souhaiteriez pas que votre médecin parle de la maladie de Madame Attel. Voilà. Donc, nous, c'est pareil. On est au cœur des entreprises. On est au cœur des problématiques des entreprises. Et donc, on est dans une relation de confidentialité totale, en général.
Ouais, cool, avec cette crise, mais tout le monde est déprimé, tout le monde s'inquiète, tout le monde s'angoisse, mais pas tout à fait tout le monde quand même, vous entendez, ce manager de transition, pour lui, ça va pas mal, hein, ça va pas mal, 2 à 3 000 emplois détruits chaque jour dans ce pays, ça fait du boulot, eh ben oui, La destruction des emplois crée des emplois. Et des emplois qui sont pas mal du tout. Manager de transition ou consultant de restructuration, c'est pas mal. Une soirée, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Ah, moi, je suis consultant de restructuration. Ça vous pose une personnalité. Alors, bien sûr, il se trouve des mécontents, des aigris, comme on en entend dans certaines émissions de radio, pour appeler ça des coupeurs de tête, des mercenaires, du plan social, mais peu importe, ça fait partie des dommages collatéraux. Les dernières études de la profession de manager de transition montrent que 30 à 60% des entreprises risquent de faire appel à un manager de transition en 2009-2010. Hein, c'est pas mal. De nombreux salariés vont donc voir arriver bientôt, cette année, dans les semaines ou mois qui viennent, un de ces affables cadres chargés de les foutre dehors. Ça coûte facilement de 1000 à 1500 euros la journée, les prestations de ces hommes et femmes-là. Alors, on avait fait un appel, vous vous souvenez, il y a quelques jours, parce qu'on voulait savoir qui sont ces nettoyeurs, ces licencieurs, ces managers de transition, comme vous voudrez. Ben, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de succès, quelques vagues pistes, mais non. Il a fallu qu'on prenne notre bâton de pèlerin, notre micro de là-bas si j'y suis, pour en rencontrer quelques-uns qui ont bien voulu nous répondre et nous expliquer comment ils font ce joli métier. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, manager de transition, un bien chouette métier.
Mademoiselle, monsieur, il n'y a pas de sous-métier. De toute façon, c'est ça ou rien. Choisissez. Vous prenez ou vous ne prenez pas? Vous exagérez. Réfléchissez, le train ne repassera pas, la charrette, oui. Si vous ne trouvez pas, interrogez-vous. Vous n'aviez qu'à être fonctionnaire, emploi à vie, 3 pelletés de vacances, pas grand-chose à faire. Si vous ne trouvez pas, interrogez-vous. Vous n'aviez qu'à, vous n'en seriez pas là. Pas de vieux chez nous, si vous ne trouvez pas, interrogez-vous. Pas de PD chez nous, vous êtes enceinte. Il faut bien que l'entreprise tourne, et les Français d'abord, je vous prie. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est ça où notre entreprise dépose le bilan. C'est la loi du marché. Je suis au regret. Logement social, 7 enfants et autant d'allocations, ça leur fait de jolis revenus. Cherchent un emploi? Non, ils cherchent pas. Ni responsable, ni coupable, hein, tout leur est dû. Mais comment expliquer que vous soyez resté sans emploi pendant plus d'un an? Reprenez-vous, je vous pose une question, une simple question. Je suis recruteur, je fais mon métier, je ne fais que mon métier. Mademoiselle, monsieur, quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on trouve, on prouve. Je vous remercie.
Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé. Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé.
Bernard Tronel, donc directeur général de Essensis France. J'ai découvert aux États-Unis le management de transition. C'était en 1984 et j'ai décidé donc en 1988 de créer ma propre entreprise de management de transition en France, après avoir passé 8 ans aux États-Unis.
Si on prend le cas d'un plan social, est-ce que faire un plan social, c'est mieux rémunéré ?
Non, le cas du plan social, les plans sociaux sont souvent des missions d'expertise. Donc elles font partie des missions les mieux rémunérées, mais pas plus chères que les autres missions d'expertise. Je vais vous donner une fourchette très large, hein, puisque vous comprenez que le DRH d'une entreprise de 10 000 personnes n'a pas la même rémunération qu'une entreprise de 200 personnes. Mais grosso modo, ça va de 80 000 euros à 250 000 euros par an.
Voilà, un bon petit boulot, manager de transition. Vous avez tout compris. Quand dans une entreprise, on trouve la mort dans l'âme, et on est obligé de se séparer de quelques salariés, on est d'abord très malheureux, très malheureux. Les cadres et les dirigeants de l'entreprise ne dorment plus. Pour eux, c'est une vie d'enfer, c'est terrible. Et quand vraiment ils n'y arrivent pas, ils font appel à un manager de transition, à quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui fait le boulot à leur place et qui repart ensuite après avoir vidé l'entreprise, fait le boulot, quoi. Voilà. Mais il y en a qui ça ne déplaît pas du tout. La preuve, Bernard Tronel de Essensis, qui explique un petit peu en quoi consiste son joli métier.
Le métier de management de transition et le métier que je fais aujourd'hui est un métier qui est absolument passionnant, hein, puisqu'on est au cœur de la problématique des entreprises. On se doit de leur trouver des solutions souvent extrêmement pointues dans des délais très rapides. Et pour moi, c'est un jeu. Et je vis de façon extrêmement heureuse et sympathique cette fonction. Hein. Bien sûr, la crise actuelle est très dure et se traduit par des licenciements. Mais malheureusement, on est dans une situation économique qui est difficile. Je pense que la crise, les vrais effets de la crise sur le plan industriel sont plutôt devant nous que derrière nous. Et je pense que malheureusement, on aura encore un certain nombre de plans de licenciement. Bah, il faut assumer, il faut dialoguer, il faut anticiper, il faut parler, il faut... Et c'est comme ça qu'on réglera les problèmes, non ? Il y a clairement une augmentation de la demande. On est dans un marché qu'on estime à peu près en progression de 25 à 30% par an. Pour être concret, Essensis a progressé de 26% sur le premier trimestre 2009. Donc ça reflète très bien, si vous voulez, qu'il y a une demande de plus en plus importante. Encore une fois, parce que notre offre répond exactement à ce dont ont besoin les entreprises. Nos managers ne sont pas des mercenaires. Nos managers sont plutôt des chirurgiens ou des médecins. Soigner, c'est quand on nous demande de gérer du changement. Donc là, il est plus médecin dans la mesure où il va porter un diagnostic, il va proposer des solutions et il va mettre en œuvre les solutions.
S'il intervient dans un plan social, les salariés prendraient mal le terme de médecin. Ils diraient non, il n'est pas en train de nous soigner.
Comme vous le savez, malheureusement, les chirurgiens sont amenés à amputer certaines personnes pour les guérir. On est dans cette problématique et il y a certaines opérations qui n'ont pas de conséquences à terme et puis il y en a d'autres qui ont des conséquences et parfois pour sauver des vies, on est obligé de procéder à des opérations chirurgicales lourdes. Il vaut mieux vivre, après c'est des choix personnels, mais je pense qu'il vaut mieux vivre en chaise roulante que de passer d'arrêter de vivre.
Bon, il vaut mieux vivre amputé des bras plutôt que de la tête.
Voilà.
J'ai vraiment la niaque, j'ai la pêche, comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'au fond de moi je suis un winner. Par exemple cet été au ping-pong j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Ici c'est comme au ping-pong, et sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h, 7h02, je suis comme un fou, je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivée à un niveau de zéro défaut. Bref, je suis un excellent produit.
Je suis Luc Bramy, je fais de l'intérim management dans le cadre des restructurations et dans tous les aspects relations sociales, donc les négociations, ce genre de choses.
Vous avez quel âge ?
J'ai 43 ans. Alors en fait, j'ai absolument pas une formation de DRH, je suis ingénieur à la base. J'ai commencé par faire différents métiers pour en arriver finalement à faire du conseil, pour en arriver ensuite à tout ce qui était négociation. Petit à petit, ensuite, j'en suis arrivé à la restructuration et enfin le produit, j'irai fini à aujourd'hui, c'est donc de l'intérim management, du conseil et de l'intérim management sur tout ce qui est plan social. Généralement, quand on m'appelle, j'ai plutôt une spécificité plan social.
Voilà, une spécificité plan social, nous dit Luc Bramy. Voilà, des années qu'on vous présente des reportages avec des histoires de plans sociaux, comme on dit, c'est-à-dire de licenciements, de destruction d'emplois à travers tout le pays. Mais on est toujours du même côté. On est toujours du côté des licenciés, des syndicats, parfois des élus locaux. Voilà, ça se limite à ça, du côté des victimes et du côté des impuissants. Mais on est rarement, ou même jamais, nous n'avons pu rencontrer ceux qui mettent ces plans sociaux en application, c'est-à-dire ces directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, ou là, en l'occurrence, les managers de transition, c'est-à-dire ceux qui viennent faire le boulot à la place des autres qui n'ont pas envie de le faire ou qui sont impuissants à le faire ou qui n'ont pas forcément envie de regarder les gens qu'ils vont virer droit dans les yeux. Alors on a vu Gérard Tronel, directeur du cabinet 106. C'est un cabinet spécialisé dans le management de transition, donc ils ont en moyenne 120 missions par an, dont 10% concernent des plans sociaux. Et donc ils envoient des cadres qui se mettent à la disposition des entreprises, des multinationales, des grandes entreprises. Et ces cadres occupent des postes de directeurs généraux, directeurs financiers ou directeurs de ressources humaines, le temps de faire le travail. Et maintenant, on est avec Luc Bramy, 43 ans, qui lui n'hésite pas à répondre aux questions des journalistes. Il est un des rares à répondre. Écoutez, moi ça me dérange pas qu'on me colle l'étiquette de salopard sur le front tant que j'ai la fierté d'avoir bien fait mon métier. Il pense qu'il aime bien ça, son boulot de intérim management. Et les plans sociaux, c'est des situations qui exigent du manager plus d'intuition que de réflexion. Et ça, c'est stimulant. Luc Bramy.
Ça fait combien d'années que vous le faites ?
Ça fait à peu près 5 ans.
En 5 ans ? Vous, à peu près combien de plans sociaux vous avez fait ?
En mission, j'en ai fait 3.
Et ça représente à peu près combien de personnes qui ont été licenciées ?
Licenciement sec, ça en représente un peu moins de 1000. Maintenant, en termes de nombre de suppressions de postes, ça en représenterait de l'ordre de 2000-2500. Il y a un aspect légal des choses. Est-ce que vous pouvez faire une délocalisation? Certainement. Il y a des juges qui ont jugé ça, ils ont regardé les arguments de l'entreprise, ils sont arrivés à la conclusion qu'on pouvait le faire. Donc, il y a la possibilité légalement de le faire. Maintenant, est-ce que c'est moral? C'est un autre sujet. De toute façon, c'est pas une question de moralité. La moralité ne se joue pas là, malheureusement. Alors, est-ce que ça se justifie de faire un plan social? Moi, je n'ai pas créé le capitalisme, mais il me semble que le principe, c'est il y a d'un côté des actionnaires avec un capital qui doit ramener quelque chose, et puis de l'autre côté, il y a les salariés qui sont là, normalement, pour amener du travail, et il faut que ça ramène plus à l'actionnaire que ce qu'il paye de travail. Donc, à partir de là, si ce schéma n'existe plus, c'est qu'il y a un problème. Donc maintenant, si on veut, on revient sur tout le système pour que les gens vivent plus sereinement, mais tel que le système est, le plan social, c'est quelque chose qu'il faut considérer comme étant incontournable.
Vous rappelez le jour où vous avez appris que l'aciérie de Gandrange allait fermer?
Ben, ouais.
Ça vous émeut encore, en fait?
Ça veut dire qu'il faut tomber à
ça. Où est-ce que vous étiez, vous, à ce moment-là?
Au coulé continu. Je travaille avec mon fils, et puis...
Là-bas, si j'y suis, 28 avril 2009, à Gondrange.
Vous n'avez plus de voix?
Plus de boule.
Parce qu'on pense que ça fait un an, et que du coup, l'eau a coulé sous les ponts, et que pour vous, vous êtes passé à autre chose, mais pas du tout, en fait.
Non, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. On est tous, là, en ce moment, on est tous sur les nerfs. Bientôt, les seuls qui vont perdre de l'argent, c'est les pharmacies. Parce qu'on est tous sous troxène, on est tous sous calmant, tout le monde est énervé, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus de quoi parler, et on se regarde, on se demande où on va aboutir, là.
C'est un choix stratégique. De la même façon que vous faites un investissement pour vous lancer dans un nouveau business, vous faites un autre investissement. C'est un investissement, il ne faut pas se le cacher. Vous faites un investissement qui va vous amener à être avec tant de personnes en moins, dans une autre configuration, avec peut-être des coûts moindres. Vous allez peut-être vous trouver mieux placé auprès de vos clients pour pouvoir vendre, et puis j'en sais rien. Donc, c'est véritablement, ça fait partie d'une stratégie d'entreprise, quoi. Vous ne le lancez pas sans le faire relire par un avocat. Vous avez un avocat en droit social qui est présent à vos côtés. De la même façon, vous avez un budget sur le sujet, vous avez un contrôleur de gestion qui est à vos côtés pour contrôler que vous avez pris les bonnes provisions, que les coûts sont impactés correctement, etc. Enfin, grosso modo, c'est comme un projet d'investissement et vous êtes guère que le chef de projet.
Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, vous êtes intéressé? Ah, ça vous plairait, ça, ce métier de manager de transition? Alors, seulement, il faut que vous imaginiez, vous pensiez comment appliquer le plan de sauvegarde de l'emploi. Ne dites pas licenciement, ne dites pas je suis le mercenaire des actionnaires, ne dites pas je vais nettoyer cette boîte et tout. Vous dites plan de sauvegarde de l'emploi, mode d'emploi.
Dans le cadre d'une restructuration avec des suppressions de postes, il y a ce qu'on appelle, ce que la loi appelle, le plan de sauvegarde de l'emploi, le plan social.
On ne dit pas licenciement dans la loi.
On doit en parler, mais la loi, elle dit simplement qu'il y a deux aspects qu'il faut traiter. Il faut expliquer la réorganisation et il faut expliquer comment on va atténuer l'impact sur l'emploi. C'est-à-dire que quand on fait des suppressions de postes, grosso modo, vous supprimez un poste d'opérateur, vous pouvez en avoir 100 dans une usine, et puis après, vous avez des gens. Dans cette partie-là, on parle des gens. Donc, les postes d'opérateurs, ils peuvent être occupés par des intérimaires. Il peut y avoir des gens qui ont des CDI dessus, des CDD, enfin... Le plan de sauvegarde de l'emploi, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre ces postes et ces gens. C'est généralement ça qu'on voit apparaître dans la presse, c'est tant de suppression de postes, tant de licenciements secs. Donc c'est comment à la fin on va avoir géré ce problème. Par exemple, dernièrement, je crois que Air France a annoncé des suppressions de postes, mais a indiqué qu'il n'y aurait aucun licenciement sec. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont faire partir peut-être les intérimaires. Ensuite de ça, ils vont pas reconduire les CDD. Ensuite de ça, ils vont proposer peut-être des formations aux gens. Ils vont regarder les gens qui vont partir à la retraite. Est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être anticiper un peu la retraite? Donc c'est ce qu'on appelle la pré-retraite. Ça fait partie des populations pour lesquelles on essaie d'amener une solution. Vous pouvez faire partir toutes sortes de personnes. Normalement, une entreprise qui fonctionne correctement sur la gestion des ressources humaines, elle n'a pas à garder, entre guillemets, des canards boiteux. Il y a différents cas. Il y a des gens qui ont des maladies. Il faut voir si la maladie a été traitée en termes d'handicap. Est-ce que ça correspond à un handicap? Et dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui ne font plus le boulot depuis longtemps. Enfin, il faut essayer de traiter le problème qui fait plus le boulot. Enfin, il faut traiter ces situations-là. Ils vont aussi voir qui est-ce qui veut être volontaire. Et on va offrir, en effet, un certain nombre de moyens, d'incitations pour que les gens partent.
Moi, je suis rentré à 17 ans dans cette entreprise. Quand je suis rentré, que j'avais 17 ans et demi, ils m'ont dit, tu rentres dans une grande famille.
Gérard.
On va s'occuper de toi, on va te protéger jusqu'à ta retraite. Et puis là, je vois qu'ils me lâchent.
Là-bas, si j'y suis, 30 avril 2009, à Grenoble. Et
là, c'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent. C'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent, carrément. Voilà. On me dit, bon, ben, t'as 50 ans, c'est fini, maintenant, tu dégages. Tu dégages, on ne veut plus. Voilà. C'est comme ça que je le prends, donc je leur en veux par rapport à l'éthique Caterpillar. Moi, j'ai conditionné toute ma vie autour de Caterpillar. J'ai travaillé les heures supplémentaires, les horaires, la flexibilité dans tous les domaines. Et puis maintenant, bah, j'arrive à 50 ans, je fais quoi? C'est une famille qui me lâche complètement.
Et vous avez des lunettes en verre fumé? C'est parce que vous êtes fatigué de la lumière du jour, voilà, à force de travailler de nuit?
La nuit, ça tue. Je vous parle pas de mes poignets, je vous parle pas du coude. J'ai pas ça pour rien.
Ça, c'est des gants, c'est des mitaines. Je croyais que vous étiez motard
non,
avec
non,
ça.
J'ai deux métacarpiens qui sont cassés ici. Et donc ça le fait de porter des gants avec du gel ici, et ben, ça me maintient les métacarpiens et ça m'empêche l'opération dans pas longtemps. J'ai été usé dans cette entreprise. Usé à petit feu. Et je me débrouillais comment? Au chômage, au RMI, à la casse. Ils me mettent à la casse.
Vous, votre premier plan social, comment ça s'est passé?
Ben en fait, je suis arrivé dans l'entreprise pour aider la direction dans ses aspects communication, l'aider à faire la négociation. Enfin, j'étais là vraiment comme conseil.
Et est-ce qu'on peut nommer cette entreprise ou pas?
Alors, je pense que ça présente assez peu d'intérêt. Bon, c'est une entreprise dans les semi-conducteurs. L'entreprise voulait fermer une usine dans la Bretagne. Voilà. Le DRH lui-même l'a assez mal vécu. Il était, je dirais, déjà très affecté par la rupture du dialogue qui existait. Enfin, il a dû être arrêté. Il a été malade.
Et donc, c'est vous qui avez pris sa place?
J'étais arrivé là tout à fait sur le principe du consultant. Et j'aurais jamais pensé que je deviendrais DRH. Et au demeurant, j'avais pas du tout la formation pour le faire.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 38 ans. Et donc la procédure s'est quasiment uniquement passée sous l'angle un peu juridique. C'est-à-dire que pour convoquer un CE, il fallait faire un référé. Pour arriver à discuter, il fallait quasiment venir avec un huissier. Enfin, c'est pas des conditions de dialogue particulièrement agréables. Le dialogue s'était tellement radicalisé que tout le monde était en grève. La gestion courante, elle se réduisait à pas grand-chose. Enfin, en tout cas, vous avez personne qui produit. C'est une situation qui est assez terrible pour tout le monde parce que ça vous focalise complètement sur le seul sujet qui est la fermeture, la restructuration. Je peux vous dire en tout cas que le jour où il y a une grève, ils ne parlent plus que de ça. Donc c'est vrai que là, vous avez des gens qui vivent encore plus mal cette situation. Et en fait, on est resté avec des gens qui pendant... donc moi, je suis arrivé en janvier et en juin, il s'est terminé. Donc c'est-à-dire qu'on a fait les licenciements en juin. Si vous voulez, pendant ces 6 mois-là, ils n'ont quasiment pas travaillé. Ils étaient quasiment tous en grève, sachant qu'ils étaient payés. Je dirais que ce n'est pas un plan que je qualifierais de réussi. Ça a donné lieu à énormément de procédures juridiques qui, au demeurant, ont été gagnées par l'entreprise. Mais ça, c'est pas le fond du sujet, c'est que les gens, en fait, sont restés dans le conflit pendant des années et des années, et que c'est pas le climat le plus opportun pour arriver à se retrouver un emploi. quand on se sent encore dans son passé, dans une situation d'obtenir gain de cause, bah, on ne peut pas avoir un comportement, je dirais, tranquille face à son nouvel employeur. Le reclassement a été très difficile. C'était la seule usine de semi-conducteurs de la région. Et donc, il n'y avait pas de possibilité de retrouver un emploi, je dirais, dans le même domaine d'activité. C'était une usine qui avait recruté à la fois le père, la fille, le maire. Il n'était pas rare de voir 2, 3, voire 4 personnes qui, de la même famille, dans l'usine. Quand vous avez 4 personnes dans la même famille qui sont touchées par les licenciements, ça devient en effet très difficile. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans cette activité, qui sont des gens très bien. Il y a tous les cabinets de reclassement, c'est-à-dire tous les gens qui sont là pour essayer de trouver un nouvel emploi, aller chercher des emplois, aider les gens à passer le cap. Souvent, le plan social, c'est des gens qui ont une certaine ancienneté et qui ont, certaines fois, jamais envisagé d'aller rechercher un autre boulot ailleurs. Donc, en particulier, quand on est dans une fermeture, on sait que c'est l'ensemble des cas qu'on va devoir traiter. Je vais vous dire, le pire des cas, généralement, le cas qui est vraiment le plus compliqué, c'est quelqu'un qui est alcoolique. Ah ben dans un plan, il y a toujours une ou deux personnes qui est alcoolique. Généralement, la personne est devenue d'autant plus alcoolique à cause du plan et de la situation qu'il a eu à vivre. On ne peut pas le nier. Mais maintenant, il faut essayer de le ramener dans une situation où il va se retrouver un confort. Je ne vous dis pas que c'est facile. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a tout un ensemble de professionnels qui interviennent sur un plan social. Il y a des gens qui font du reclassement. C'est un domaine compliqué où il faut avoir beaucoup d'empathie, où il faut avoir... faut pas abuser, mais il faut savoir le faire un petit peu. Et ça, c'est un vrai boulot. Et pour être clair, c'est pas un boulot que moi je fais. C'est très difficile de quitter une entreprise. C'est très difficile de faire la rupture. La rupture, elle est portée par les personnes comme moi. C'est-à-dire que moi, je les amène jusqu'au moment où ils ont leur lettre, ils ont un entretien ou pas, enfin, ils ont un certain nombre de choses. Et après, il faut que je les mette entre les mains de la personne qui va les reclasser. Et cette personne-là, moi, je vais le pousser pour qu'il traite avec dynamisme la situation de façon à ce que les gens soient reclassés.
D'accord, vous les amenez au bord de la falaise.
Exactement.
Vite. Allez, on va mettre un coup, les gars, là.
Dans le souci d'accroître la compétitivité de prix, la firme doit alors tenir 15 ans. Sinon, elle perdra des parts de marché.
Conquérir de nouveaux marchés. La croissance, c'est l'emploi. Lutter, c'est vivre.
Le problème, c'est pas compliqué.
Il faut
je suis pas payé au pourcentage. Généralement, c'est de la prestation. On est payé à la journée, on est payé par contrat. Enfin,
bon, vous êtes payé combien?
Ça varie entre 1 000 et 1 500 euros.
Par jour.
Par jour.
Net ou brut?
C'est des honoraires, c'est-à-dire que c'est grosso modo un montant à la journée qui correspond à des honoraires comme des honoraires de conseil.
Combien de temps ça dure à peu près en moyenne une restructuration ou un plan social?
La partie procédure, donc par rapport à l'annonce, on a à peu près de l'ordre de 6 mois, entre 3 et 6 mois pour faire tout ce qui est discussion, négociation du plan social. Donc une fois qu'on a terminé ça, dans la plupart des cas, on est dans un timing où il faut entre 1 et 2 mois pour déclencher les licenciements. Et ensuite de ça, il y a généralement entre 6 et 9 mois pour le reclassement. Donc tout cumulé, on est sur une base de 1 an à 1 an et demi.
Et quand vous voyez certains DRH réaliser qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils se disent non, là, il y a par exemple, c'est une famille, là, ils ont des crédits, si je les mets au chômage, c'est la fin de tout.
Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, il ne faut pas faire la restructuration. Si vous projetez votre culpabilité sur les gens qui vont être touchés par cette restructuration, l'effet que vous donnez est terrifiant. Moi, je ne critique pas, hein, c'est juste que ce n'est pas à faire. Il faut voir que normalement, un DRH, il doit gérer en étant capable d'être équitable. Et équitable, ça veut dire que il faut pas non plus qu'il s'attache aux personnes. Un DRH qui dit « j'aime bien ce type-là » et qui a une attitude qui va dans ce sens-là, c'est un risque. Et ça reste quand même une situation qu'une entreprise n'a pas véritablement envie de vivre. Et tous les DRH, dans des groupes très restructurés ou qui passent leur temps à restructurer, petit à petit, ils s'usent et ils se fatiguent de la situation. Il y en a beaucoup qui disent « moi, je vais aller dans un groupe où il n'y a plus de restructuration ». Bon, là, avec la crise, c'est plus difficile de trouver.
Mais alors, c'est quoi qui vous plaît, vous ? Puisque vous, vous êtes missionné pour ça, alors ?
C'est une situation qui est relativement difficile à gérer. Donc, il y a une vraie tension, il y a une vraie difficulté. Et on a la satisfaction du travail à l'arrivée bien fait. Sachant qu'au début, c'est la pilule amère, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez là-dedans, vous êtes souvent énormément maltraité. Vous avez quand même un certain temps où vous êtes le paria de la société. Et c'est vrai que c'est assez difficile de rentrer dans ce genre de climat. Mais bon, si vous n'avez pas le besoin que tout le monde, quand il vous voit, vous dise « je vous aime », ça peut se passer assez bien. Mais non, mais enfin, c'est difficile de savoir se dire si la notion un peu de mission, de mercenaire, doit être critiquée ou pas dans ce cas-là, quoi.
Vous acceptez ce terme de mercenaire ?
Le mercenaire, oui, à condition de ne pas trop galvauder le terme et en considérant qu'il y a un point qui est essentiel, c'est que moi, j'obéis. C'est-à-dire que moi, ce que je cherche à faire, si on m'a demandé de venir pour faire un plan, j'obéis. Beaucoup de gens m'interpellent en me disant « mais vous vous sentez pas mal de faire ça ?» Et vous devriez vous arrêter immédiatement si vous aviez un peu de conscience. C'est pas exact. C'est une situation où une fois que vous êtes engagé dedans, il faut aller jusqu'au bout. Écoutez, on a forcément des états d'âme. Maintenant, au-delà de ça, faut les avoir à bon escient. Vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes pas un héros. Vous êtes juste la personne qui fait un métier difficile, mais si vous l'amenez bien à son terme, vous aurez la satisfaction de ce que vous faites.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissants de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession. Vous quitterez votre logement dans les 3 mois, remettrez à l'accueil votre badge de parking, viderez votre casier, restituerez votre carte de cantine. Nous ne sommes pas ingrats et nous vous verserons des indemnités substantielles qui vous permettront de profiter de la vie et continuer un moment à consommer nos produits bien sagement. Veuillez accepter, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir, par notre groupe, vous faire profondément remercier. Notre société doit conserver sa place de leader du marché. Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices.
Donc, je m'appelle Didier Crespel, je suis donc le directeur général du groupe Sermo. Donc, j'ai fait d'abord une école de commerce, et puis ensuite, j'ai été plutôt dans les fonctions financières, contrôleur de gestion, puis directeur financier. Et en 97, j'ai pris un poste de direction générale chez Valeo, donc de 97 à 2000. Et depuis 2000, donc, je suis directeur général de la société Sermo.
Alors, je vais vous laisser peut-être reprendre votre Perrier.
Merci.
Voilà, Didier Crespel, 47 ans, manager de transition après Luc Bramy, après Gérard Tronel. Aujourd'hui, ces messieurs, parfois ce sont des dames aussi, bien sûr, qui font cette tâche de, vous avez compris, restructuration et tous ces euphémismes, plans sociaux, etc., un travail... un domaine en pleine extension. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, on dénonçait la dictature du prolétariat. Aujourd'hui, on s'accommode très bien de la dictature de l'actionnariat, parce que la cause de ces destructions massives d'emplois, elle est là, pas ailleurs, dans l'exigence des actionnaires et des groupes d'actionnaires qui exigent des rendements de 15%. Tout est dû à cette avidité monstrueuse qui exige des rendements à très court terme. Ce qui fait qu'on ne peut pas investir dans une entreprise, mettons une entreprise qui se lancerait dans la recherche pharmaceutique pour trouver une solution, et imaginons au paludisme par exemple, il est bien possible qu'on fasse des recherches, et bien c'est des recherches peut-être pas suffisamment rentables et sans doute pas forcément à court terme, donc on poussera l'entreprise de produits pharmaceutiques à aller sur des produits concernant l'obésité, par exemple. Là, c'est la mode aujourd'hui, et parce que ça, c'est rentable, ça concerne les pays riches, et surtout, ça satisfait l'avidité des actionnaires. Alors, il arrive aussi, bien sûr, on l'a vu à nombreuses reprises, que le salarié soit l'actionnaire aussi, que les salariés soient actionnaires aussi, et que l'exigence du principe d'actionnariat fasse que le salarié se trouve licencié par lui-même, puisque il est actionnaire aussi. C'est un paradoxe et une schizophrénie tout à fait stupéfiante de notre époque. C'est un trait de notre temps. Didier Crespel, donc, lui, comment s'y prend-il pour faire ce joli métier?
Combien de plans sociaux vous avez dû faire?
En tout? Beaucoup. Je sais pas, enfin, plus ou moins important, mais 7-8, quoi. Oui, c'est beaucoup.
En combien d'années?
En 10 ans, 12 ans.
Et vous savez à peu près combien de personnes ça représentait?
C'est 800, 900 personnes. Et c'est beaucoup.
Comment vous l'avez vécu, ce moment?
Bah, c'est pas des moments faciles au sens où on parle de départ, on parle de gens qui vont avoir une rupture. Et donc c'est un climat potentiel de tensions fortes et de difficultés, quoi. Donc il faut aborder, enfin moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'aborder les choses de manière calme, de manière exposée, de ne pas partir dans un espèce de conflit, de confrontation. C'est des phases complexes, quoi. Et bon, il y a une difficulté technique, ou je vais dire professionnelle, hein, de mener des négociations. Et puis derrière, il y a quand même une certaine empathie, si vous voulez, avec ce que vous êtes en train de faire.
Et est-ce qu'à un moment donné, vous auriez pu ne pas l'appliquer, ce plan social? Est-ce que vous auriez pu refuser? Est-ce que vous aviez eu envie
non,
de...
Non, enfin bon, soit on fait le job, on va dire, et puis on fait, quoi. Soit on ne fait pas, quoi. Enfin, je veux dire... C'est pas une histoire de rentrer en résistance. Je pense que l'entreprise, c'est pas un lieu où on rentre en résistance. Il y a d'autres vecteurs. Si on assume plus son rôle de directeur général avec ce type de contraintes, il y a une autre façon de s'exprimer que de rester dans l'entreprise à mener son combat, quoi. Je pense que c'est incompatible.
Et pourquoi c'est incompatible?
Parce qu'on est payé, on a un job pour remplir un certain nombre de fonctions, et si on n'est pas d'accord avec cette fonction, il faut sortir de l'entreprise et puis faire autre chose. En tant que dirigeant d'entreprise, on n'a pas, à mon sens en tout cas, ce droit.
C'est un droit, et pourquoi vous ne le prenez pas, ce droit?
Enfin, on a une mission, et soit on la remplit avec la meilleure volonté du monde, ou soit on sort de l'entreprise et puis on fait autre chose, si on n'accepte pas les règles du jeu.
Et votre rémunération chez Valeo était de combien à peu près en tant que directeur général?
Ça, je le dirais pas.
Pourquoi? Bah non, mais pour qu'on ait un...
Non, mais parce que d'abord, je m'en souviens pas, et puis c'est bon, c'est quand même...
Comment ne pas se souvenir de... Bah, un salarié, moi, à chaque fois, quand je demande un salaire, on me le donne.
Non, mais non, ça, je ne rentre pas dans cette discussion-là, parce que, si vous voulez, c'est cloué au pilori, les patrons qui gagnent trop par rapport aux salariés. Donc, si vous voulez, si vous mettez un chiffre dans la nature, et que je ne pense pas que ça contribue, effectivement, à améliorer l'image des patrons d'une façon ou d'une autre. Donc,
pour essayer d'avoir un ordre d'idée, c'est logique, ce n'est pas du tout pour vous mettre au pilori, c'est pour essayer de comprendre.
Oui, mais bon, non, je suis... Non.
Pour revenir, par exemple, sur Valeo et le plan social que vous avez fait, quand vous dites « j'étais un bon petit soldat », c'est que quand on a un bon petit soldat, on essaye de...
On se pose pas de questions. Enfin, je parle pas au niveau de la morale ou de quoi que ce soit, mais enfin, je veux dire, on exécute, quoi. C'est pas, y a pas plus de réflexion que ça, quoi. Le jugement moral n'intervient pas dans cette sphère-là, mais enfin, quand je dis bon soldat, c'est d'adhérer au projet de l'actionnaire tel qu'il est. C'est-à-dire ne pas tenter autre chose, ne pas essayer de développer d'autres secteurs ou des choses comme ça. Donc,
il y a des choses que vous avez regrettées, Valeo, que vous vous dites j'aurais pu peut-être.
Chez Valeo, oui, il y a un certain nombre de choses quand même que j'ai déplorées, hein, notamment des développements qu'on avait prévus et qu'on n'a pas fait. Mais plus dans la stratégie générale, si vous voulez, que dans le plan social en particulier.
Dans le plan social, vous ne pensez pas que vous auriez pu soit le minimiser, soit l'éviter?
Voilà, je ne pense pas que c'était... Enfin, on aurait pu peut-être un peu l'atténuer, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a finalement fait. Quoi.
Est-ce qu'il était légitime?
Ouais, je pense que c'est un plan social légitime. Il était légal, en tout cas. Maintenant, l'État n'intervient plus dans les plans sociaux. Donc l'État intervient médiatiquement dans les plans sociaux, mais n'a pas de moyens d'action sur les plans sociaux, véritablement, sauf des moyens de pression sur les entreprises, mais n'a pas de moyens. Enfin, l'État ne peut rien faire, en fait. C'est une affaire privée entre des salariés et puis une entreprise. Donc l'État peut orienter, peut animer, peut tenter de prendre des mesures pour relancer l'économie, relancer l'investissement, mais n'a pas de pouvoir.
De ce que vous m'expliquez, c'est-à-dire soit on accepte la mission, soit on ne l'accepte pas, est-ce que forcément les raisons économiques contribuent à faire en sorte qu'on accepte de remplir le...
La valeur économique n'est pas la seule raison qui vous font accepter ou pas une mission. C'est au départ des ambitions personnelles, quoi, une carrière. Quoi, hein, c'est-à-dire qu'on accepte de passer par un certain nombre d'étapes qui font qu'on a envie d'accéder à l'étage supérieur, et pour accéder à l'étage supérieur, on accepte finalement d'être un bon soldat. Quoi. Alors, j'ai un peu moins petit soldat que je n'étais il y a 10 ans. Quoi, voilà.
Vous êtes un peu moins petit soldat?
Oui.
Il y a 10 ans, si je vous avais vu, j'aurais rencontré quelqu'un de vraiment...
Un peu plus petit soldat, oui. C'est-à-dire un peu plus aux ordres de sa hiérarchie, de son actionnaire et de son... Enfin oui, des gens qui avaient rendu compte.
Merci à tous, merci à Didier Crespel qu'on vient d'entendre, merci à Luc Bramy, merci à Gérard Tronel. C'était un reportage de Pascal Le Pascariello. Merci aussi à Isabelle Pivert, merci à Aline Leclerc et François Ruffin. D'Aline Leclerc, Soleil capitaliste, entretien au cœur des multinationales, et Plan social, entretien avec des licencieurs, aux éditions du Sextant. Merci également à Mehdi Fikri du quotidien L'Humanité. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, là aussi commentaires possibles, souhaités et attendus. À la technique aujourd'hui, Julien Michel et Pierre Monsigny. C'est Koy Nguyen et Raphaël Moutéal qui ont réalisé cette émission, assistés de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attend vos messages au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.